Vous écoutez RTL.
RTL Soir, il est 18h37 et on vous retrouve Marc-Olivier Fogiel avec votre deuxième invité.
Deuxième invité d'RTL Soir d'un petit village marocain au Palais de la République. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem.
Bonsoir.
Vous publiez donc « La vie a plus d'imagination que toi » chez Grasset. Vous y racontez votre histoire du village de Béni Chiker à la rue de Grenelle en passant par les quartiers nord d'Amiens, Paris, Lyon. Vous revenez aussi sur votre bilan depuis 2012. On peut commencer en disant que votre parcours, c'est un pied de nez à ceux qui disent que ce n'est pas possible, que l'ascenseur social est bloqué.
Oui. Ça me plaît bien comme commentaire. D'autant que c'est exactement le message que je voulais passer. En fait, c'est un message optimiste parce que j'en avais assez des discours pessimistes et déclinistes sur notre pays qui vaut mieux que ça.
Vous le faites aujourd'hui. Évidemment, ça a un sens à quelques jours de l'élection, surtout que votre histoire personnelle, vous le dites dans le livre, vous n'avez jamais voulu la mettre en avant. Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier ?
Parce que hier, mon principal objectif, c'était d'être une femme politique à part entière et non pas une femme politique à part du fait de mes origines, ma singularité. Et qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, plus que tout, c'est d'avoir des gens qui parlent pour dire la France telle qu'elle est, telle qu'on l'aime, telle qu'on la connaît. Et la France, c'est une terre accueillante, généreuse. Moi, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte parce que je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Je ne parlais pas un mot de français. L'école m'a fait grandir, m'a accompagnée. Je suis devenue ce que je suis grâce à la France. Et donc, j'avais envie de le dire.
Donc, c'est un livre politique. Ce livre personnel, on va raconter ce parcours absolument exemplaire, mais c'est un livre politique que vous livrez aujourd'hui.
Totalement. Je ne m'en cache pas. Mais en même temps, au début, j'avais commencé à écrire un essai politique, théorique, comme il m'est arrivé d'en sortir par le passé. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça n'était plus audible et que si je voulais toucher largement le cœur des Français, il fallait aussi que j'incarne un peu mes valeurs politiques et que je raconte un peu de ma vie personnelle. Oui, c'est vrai que c'est une façon de converser avec les Français en me donnant à voir exactement telle que je suis, avec mes facettes multiples et complexes. Et je les raconte notamment lorsque je parle de mes propres enfants, en disant que d'une certaine façon, il y a un écart énorme entre moi et mes enfants, que
Nour
je vis au quotidien. Mmh. Oui, Nour et Louis, qui ne grandissent pas dans les mêmes conditions que moi. Donc, c'est aussi à moi de faire en sorte de leur apporter des valeurs, des idéaux, et en même temps, de m'adapter à ce qu'ils sont aujourd'hui.
On va raconter votre parcours, justement, là d'où vous venez. Vous êtes né en 1977, donc dans ce petit village, Béni Chiker, petit village au nord du Maroc. Votre père est ouvrier du bâtiment, il travaille en France. Vous écrivez « Je suis né dans un autre monde, je suis né il y a 200 ans ». Qu'on n'a pas l'eau courante pendant des années, on est un peu différent. Différent en quoi, Najat Vallaud-Belkacem?
Ne serait-ce que parce qu'on accorde une valeur à l'eau qui est énorme. On ne gaspille pas l'eau, je peux vous dire, dans ce cas-là. C'est vrai que le fait de devoir aller la chercher au puits, le fait de devoir compter tout parce qu'il n'y a d'opulence nulle part, ça vous rend un peu différent. D'abord, on savoure mieux les choses. C'est sans doute aussi ce qui fait ma nature optimiste aujourd'hui. Et ma lucidité sur les richesses et les forces de notre pays, c'est que moi, venant d'ailleurs, je sais qu'il y a bien des pays dans lesquels on n'a pas ces valeurs qu'on a la chance d'avoir dans la République française, une école gratuite, laïque, obligatoire. Moi, ma mère, à laquelle je fais souvent référence et qui d'ailleurs a donné le titre du livre « La vie a plus d'imagination que toi », c'est une phrase d'elle qu'elle m'a souvent répétée. Ma mère n'a pas eu la chance de faire des études, n'a pas acquis l'indépendance financière, l'autonomie, a subi un destin. Et donc, c'est une façon de dire à tous ceux qui vivent aujourd'hui en France et à toutes celles aussi, mais vraiment,
vous avez une chance incroyable,
on a
mais peut-être
de la
que
chance.
Vous en rendez pas compte, puisque vous, avant d'arriver en France, vous étiez là-bas, vous parliez berbère, vous avez très peu fréquenté l'école, vous alliez à la mosquée avec votre maman, c'était un islam paysan, pieux, archaïque, dites-vous. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 4-5 ans, grâce au regroupement familial. Est-ce que d'abord ça a été un déchirement pour vous, le fait de partir finalement de vos racines?
Évidemment. L'exil, c'est toujours un déchirement. On laisse derrière soi sa famille. Moi, il m'a fallu attendre plus d'une dizaine d'années avant de retourner au Maroc, revoir à nouveau mes grands-parents, mes cousins, mes oncles et tantes. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc c'est vrai que ça aussi, je voulais le dire pour rappeler que les populations immigrées aussi...
Elle lâche quelque chose, voilà. Il y a une part d'elle-même qui, finalement, est déchirée forcément. Ce qui fait dire à vos opposants d'extrême droite que vous avez une double allégeance au Maroc et à la France. Vous répondez quoi par rapport à ça? Vous présentez les choses telles que vous les avez vécues, avec évidemment cet attachement. Eux, ils vous en font un reproche en disant, finalement, elle est plus marocaine que française, cette ministre de l'Éducation nationale.
En fait, je réponds qu'on peut très bien pratiquer une autre langue. Par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir comme langue maternelle le berbère, qui est un dialecte d'ailleurs plutôt qu'une langue, de parler le français aujourd'hui fort heureusement. Donc pratiquer une autre langue, avoir été élevé dans une autre culture et pourtant vibrer de tout son être à la Marseillaise. C'est vrai qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, soyons clairs, parce que c'est aussi un livre politique. Lorsque pendant 10 ans, la droite au pouvoir s'est amusée à sacrifier toute une génération en détruisant des postes d'enseignants, etc., en ne mettant pas en condition les gens de prendre un ascenseur social, c'était particulièrement difficile. Aujourd'hui, depuis 2012, c'est une toute nouvelle donne et il faut que ces jeunes gens y croient et qu'à leur tour, ils prennent leur destin en main.
Voilà, votre mère, elle hallucine de votre parcours aujourd'hui, quand elle vous voit Ruth Grenelle, par exemple, ou quand vous avez porté la parole de François Hollande, elle se rappelle du village marocain et elle se dit waouh.
Oui, oui, je crois qu'elle est particulièrement consciente du chemin qu'il a fallu faire pour en arriver là. Mais oui, elle est très fière.
Vous racontez votre engagement politique dans le livre, on ne va pas l'évoquer ce soir, mais la date de 2002 a été importante, évidemment, avec le coup de tonnerre, ça paraît si loin aujourd'hui, mais de Jean-Marie Le Pen, vous en avez pleuré de rage. C'est là que date votre engagement en politique. Là, on est à quelques mois maintenant donc, de cette présidentielle, même pas quelques mois, à 2 mois de la présidentielle. Vous avez dit une phrase très forte ce week-end pour parler de votre livre. Vous jugez la situation pire qu'en 2007 pour le PS. C'est un terrible constat d'échec aujourd'hui.
Non, soyons clairs. Ce n'est pas un constat d'échec. Bah, je tire la sonnette d'alarme.
Ah bah oui,
je dis que la situation est très compliquée et qu'il faut que chacun se rende compte que si on ne se mobilise pas derrière le seul candidat de la gauche, qui est Benoît Hamon, qui a été désigné largement par les primaires, eh bien, on risque d'arriver au même résultat qu'en 2007. C'est-à-dire que ce sera la droite qui l'emportera, voire l'extrême droite.
Il y a Emmanuel Macron, vous avez vu notre sondage d'aujourd'hui, il est à 25%, Marine Le Pen à 27%.
D'abord,
Emmanuel Macron, vous pensiez qu'il allait se dégonfler il y a quelques mois, finalement, ça a été l'inverse. C'est peut-être lui la solution.
Mais d'abord, je vois les sondages comme vous et je sais comme vous que les sondages ne sont pas d'une totale fiabilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est très 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 dangereux de se positionner en fonction des sondages et de se dire « Ah oui, tiens, je vais plutôt voter un tel qui a plus de chances de l'emporter contre un tel. »
Ça a été votre collègue au gouvernement.
Pour moi, ça n'est pas une politique de gauche qu'il porte, clairement.
Quand vous voyez que finalement le candidat qui porte les couleurs de la gauche 5 ans après François Hollande, c'est un candidat finalement frondeur qui dénonce ce que vous avez fait pendant 5 ans, c'est bien que si ce n'est pas un constat d'échec, finalement, ce que vous aviez dit en disant pire que 2007, la situation vous met face à votre échec, non ?
Ce qui est sûr, c'est que dans l'absolu, moi, j'aurais préféré que ce soit François Hollande qui puisse se représenter au terme de ce quinquennat. Mais enfin, il a pris sa décision, on ne va pas refaire l'histoire.
Ah bah si Christine Angot lui demande, dans le JDD d'hier, de se représenter, vous ne lui demandez pas comme Christine Angot de se représenter ?
Non, mais de toute façon, il ne compte pas le faire, donc c'est clair. Une fois qu'il s'est retiré, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas lui le problème, qu'on avait un problème dans notre pays qui est plus général, de dénigrement permanent de l'action politique, car c'est à force d'avoir dénigré l'action politique de ce quinquennat qu'on a laissé croire aux Français que rien n'y avait été fait ou que les choses avaient été mal faites, ce qui est faux. La vérité, c'est que le bilan de ce quinquennat est très bon, on y reviendra peut-être un jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je me plie à la règle des primaires. Il y a eu des primaires, c'est Benoît Hamon qui l'a emporté. Benoît Hamon ne rejette pas l'intégralité du bilan du quinquennat, c'est pas vrai. Il a été lui-même membre de ce gouvernement. Il sait très bien qu'en matière éducative, par exemple, on a fait de très belles choses, il les amplifiera, c'est son programme, et moi, ça me va bien.
Pour être cohérente avec ce que vous avez raconté dans le livre, et avec cet ascenseur social que vous avez pris, est-ce que vous imaginez un jour vous présenter vous à la présidentielle ? La vie a plus d'imagination que toi, est-ce que la vie va vous amener jusqu'à un jour vous présenter au poste suprême ?
Le principe même de cette phrase, c'est qu'on ne sait pas ce que la vie imagine pour nous.
J'ai bien compris, jusqu'à là j'ai à peu près compris la phrase.
Donc je ne sais pas.
Dans le livre, il n'y a pas beaucoup de mea culpa, en revanche, vous avez fait plein de choses, et puis votre parcours est exemplaire, mais il n'y a pas beaucoup de mea culpa si vous en faisiez un ce soir par rapport à votre action politique.
Non, c'est plutôt ce que je n'aurais pas eu le temps de faire et de finir.
Ça, vous êtes vraiment une femme politique aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem.
Non, mais en plus, c'est ce que je pense sincèrement, parce que pour ce qui est de ce que j'ai fait, honnêtement, je suis convaincue que c'était le sens dans lequel il fallait aller. Après, dans la méthode, la façon dont les choses se mettent en œuvre, j'aurais préféré que les choses se passent mieux, qu'elles soient plus apaisées sur un certain nombre de sujets, mais sur le fond, je ne regrette strictement rien.
Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. La vie a plus d'imagination que toi. Chez Grasset, merci à vous avec une belle photo pour les auditeurs qui retrouveront sur RTL.fr.
Oui, enfin, elle n'est pas très belle, soyons sérieux, mais disons qu'elle est d'époque.
C'est une photo d'époque, donc la petite Najat Belkacem à l'époque. Merci beaucoup.
Merci à vous.